Ce matin, mon sujet, c'est « Libère tes rêves ». Libère tes rêves. J'espère que vous en avez encore des rêves. Moi, j'en ai plein le cœur. Et on va lire dans les psaumes, psaume 84, versets 6 à 8. L'année dernière, c'était « Libère ta destinée ». Ce matin, « Libère tes rêves ». Comment atteindre ces rêves ? Et je suis sûr que ça brûle déjà en vous parce que plusieurs, je le crois, ce matin, dans ce lieu, ont le cœur brûlant et ils ont des rêves au fond du cœur qu'ils voudraient voir se réaliser. Alors accrochez-vous à ces rêves. Dans le psaume 34, verset 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Amen. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des pleurs, la vallée de la tristesse, la vallée de l'épreuve, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Rien qu'en le lisant, ça me fait du bien. C'est important que nous nous fassions du bien lorsque nous nous réunissons dans la maison de Dieu. Non pas nous faire du bien pour nous faire du bien, mais que nous puissions nous faire du bien au travers de la parole de Dieu. Cette portion de l'Écriture est, je dirais, une bouteille remplie de vitamines spirituelles à consommer, je dirais, sans modération. Videz-la, prenez-la entièrement avec l'eau de la parole. Prenez ces versets, ces capsules, prenez-les. Il faut qu'elles descendent dans votre cœur. Dieu désire renouveler votre foi ce matin, renouveler votre cœur ce matin. Il y a dans le cœur du juste des chemins. Ils sont là, ils sont déjà tout tracés. C'est une certitude, c'est une affirmation de la parole de Dieu. C'est important de le savoir avant de traverser la vallée de Baca. Parce que la vallée de Baca, nous allons tous la traverser. Et elle sera à la mesure de la destinée que Dieu a pour nous. Parce que Dieu a une grande destinée pour toi. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, la vallée de la souffrance, parce qu'ils ont mis en Dieu leur appui, parce qu'il y a dans leur cœur des chemins tout tracés, parce qu'ils ont déjà identifié les chemins de Dieu tout tracés dans leur cœur, ils vont pouvoir traverser la vallée de Baca. Amen. C'est pourquoi notre relation avec Dieu, cette fraîche relation avec Dieu, est importante avant de traverser l'épreuve. Parce que des épreuves, il y en aura. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les justes, ceux qui ont dans leur cœur des chemins tout tracés, ils vont vivre un miracle dans la vallée de Baca, dans la vallée des pleurs, dans cette vallée qu'ils ont inondée peut-être de leurs larmes. Ils vont faire une expérience extraordinaire. Ils vont la transformer. Alléluia! Ils vont la transformer. Et que va-t-il se passer? Ils ne vont plus l'arroser de leurs larmes, mais le miracle va s'opérer. Ce lieu va devenir un lieu plein de sources. Des sources vont jaillir dans la vallée de Baca et la pluie va la couvrir de bénédictions. Dieu va sécher tes larmes. Ce ne sont plus tes larmes qui vont arroser la vallée. Mais c'est la pluie de la bénédiction, c'est la pluie du ciel. Et ta force va augmenter. Pendant la marche, tu ne vas pas t'arrêter, tu vas continuer, parce que tu veux sortir de la vallée. Parce qu'après la vallée vient quoi? Vient la montagne. Elles sont belles, les montagnes. Amen. Les montagnes de Dieu, les montagnes de la gloire de Dieu. Et tu vas te rendre à Sion, parce que tu vas rendre gloire à Dieu pour sa fidélité au milieu des épreuves que tu as vécues dans la vallée des pleurs. J'ai eu l'occasion de voir il y a quelque temps dans une maison une affiche, un poster qui représentait une violente tempête, un déferlement d'eau, le déchaînement de l'océan. Et puis, au milieu de la tempête, il y avait un navire qui était battu par les flots. Et puis, il y avait, en bas de cette affiche, il y avait ce message qui était écrit « Dieu ne nous promet pas une traversée facile, mais il nous assure une arrivée à bon port. C'est important dans la vie chrétienne que nous puissions considérer la marche avec Dieu. Il y a des temps d'épreuves, il y a des temps de vallées. Et souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons les montagnes. Nous voulons être au sommet, nous voulons être au top, comme on dit. Nous voulons vivre l'expérience du grand air. Et nous n'envisageons pas la vallée. Et c'est vrai que lorsque vous arrivez dans une région où il y a des montagnes, vous n'apercevez que les sommets, mais vous ne voyez jamais les vallées. Et pourtant, plus la vallée est longue, plus la montagne sera haute. Plus l'épreuve sera importante, plus la bénédiction sera à la mesure de l'épreuve que tu vas traverser. Alléluia. Il est important de garder ses rêves, car dans le cœur du juste, il y a déjà des chemins tout tracés. Les rêves sont là dans son cœur. Et lorsqu'il va traverser la vallée, il est important qu'il les serre au plus profond de lui-même, ses rêves. Des rêves qui ne sont pas toujours compris, il est vrai. D'ailleurs, dans ce domaine, il est important d'être mesuré. De garder, comme Marie, les choses secrètement dans son cœur. Mais quand ça brûle, difficile de les garder. C'est dur. Ralph Waldo Emerson, un philosophe américain, disait « Voilà la seule façon de ne pas être critiqué. Ne fais rien, ne dis rien, ne sois rien. » Il n'a pas tort. Et c'est pourquoi quand on a un rêve, difficile de ne rien faire, difficile de se taire, est difficile de n'être rien, parce que lorsqu'on est porteur d'un rêve, on est porteur d'une vision qui nous pousse vers l'avant. Difficile, voire impossible, de garder dans le silence un rêve que Dieu nous donne. D'ailleurs, Joseph en a fait la meilleure expérience. Il a osé libérer le rêve qu'il portait en lui. Et il s'attendait à ce que tout le monde l'acclame. Eh bien, on l'a mis dans une citerne. La Bible dit dans le psaume 25, verset 14, « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Pas étonnant qu'Abraham fût appelé ami de Dieu. Pas étonnant que Moïse parlait avec Dieu face à face, comme on parle avec un ami. Mon premier point ce matin sera le suivant. L'être humain a été créé avec la capacité de rêver, car il a été créé à la ressemblance de Dieu. Nous sommes différents des animaux. Jamais vous ne verrez une équipe de lémuriens se lever le matin, mettre une casquette sur la tête, prendre un marteau, des clous et des truelles, et puis monter dans un 4x4 et dire « Voilà, on va bâtir un immeuble au centre de Genève. » Jamais vous ne verrez cela. Jamais non plus vous ne verrez un oiseau se lever le matin et enfiler une tunique, son plus beau costume, pour se rendre chez un banquier de la banque suisse. Et puis, entrant dans le bureau du banquier, dit « Voilà, je viens pour faire un crédit, j'ai besoin de m'acheter un tracteur. » Jamais vous ne verrez cela. Mais un homme est capable de le faire, parce qu'il a été créé à la ressemblance de Dieu. L'homme est destiné à régner. D'ailleurs, en Éden, Dieu lui dit « Dominez ». Il dit à l'homme et à la femme « Dominez et remplissez la terre ». Il ne s'adresse pas aux animaux dans les mêmes termes, aucunement. D'ailleurs, il demande à l'homme de donner des noms d'ailleurs aux animaux. C'est dans sa nature chez l'homme, que de vouloir réussir, que de vouloir accomplir quelque chose, que d'avoir des projets, que d'avoir des rêves. Et c'est dans la nature de l'homme que de vouloir réussir. Je le disais aux jeunes vendredi soir, j'ai rarement vu quelqu'un se lever le matin en se disant « Tiens, ce matin, je suis déterminé, j'ai envie de tout rater. » J'ai rarement vu un footballeur arriver sur le terrain, il a mis ses chaussures, son short, son maillot, et puis il dit « Hey, j'espère qu'on va perdre aujourd'hui, hein ?» Non, ça n'existe pas. J'ai rarement vu le sous-directeur d'une entreprise venir voir le directeur et lui dire « Oh patron, j'espère que cette année on fait faillite. » Non, mais ça n'existe pas. Nous avons été créés pour réussir. Nous avons été créés pour gagner. Nous avons au plus profond de nous-mêmes l'envie de gagner, l'envie de réussir. Oui, nous avons cette capacité de rêver car nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Nous sommes destinés à régner et nous portons l'ADN de notre Créateur. Nous portons l'ADN de notre Créateur. D'ailleurs, je constate chez les incroyants, chez les athées, chez les agnostiques, qu'ils sont poussés par des rêves. Eux-mêmes, ils sont poussés par l'ambition, poussés par l'humanisme, poussés par les sentiments nobles parfois, bien sûr, des élans de générosité, par une vision philanthropique, parfois, il est vrai, accompagné d'un désir de défiscalisation. D'ailleurs, j'ai pu lire que Warren Buffett et Bill Gates sont engagés dans une fondation et qu'ils sont allés en Chine récemment pour rencontrer des millionnaires. Le but, les persuader 40 milliardaires de faire don de 50% de leur fortune à mon association. Ah non, c'est pas ça. À leur fondation, pardon. Et le but, c'est celui-ci, donner de sa fortune pour bâtir un monde meilleur. Warren Buffett s'engage à donner 99% de sa fortune. Bill Gates a déjà donné 26 milliards de dollars de sa fortune. Pourquoi le font-ils ? Parce qu'ils portent en eux-mêmes l'ADN du Créateur. Ils ont été créés à la ressemblance de Dieu. Ils sont capables de rêver, d'être poussés par l'ambition, par des désirs d'humanité, des sentiments d'humanisme, des sentiments philanthropiques. Mais j'aimerais te dire à toi, qui es enfant de Dieu, tu es aussi doté de la capacité de rêver, mais parce que tu es dans la maison de Dieu, je t'invite à rêver avec Dieu. Ça m'intéresse encore plus. Que de rêver avec Dieu. Rêve avec Dieu. Parce que Dieu est un expert en la matière. Dieu est un expert en matière de rêve. D'ailleurs, je le vois dans toute la parole de Dieu, il donne des visions à des hommes. C'en est la preuve. Dieu rêve. C'est lui qui a créé l'homme et la femme avec cette capacité de rêver. Il a mis son rêve en application. C'est lui qui a créé d'ailleurs le paradis, le jardin d'Éden, un endroit de rêve. C'est Dieu qui l'a créé. C'est lui qui a vu ce rêve même être brisé. Dieu a été le premier à constater le brisement de ce rêve lorsque la tragédie de la chute est venue gâcher ce paradis qui est devenu un paradis perdu. Mais Dieu a continué à rêver parce que c'est lui qui a ressuscité le rêve perdu lorsqu'il a couvert l'homme et la femme avec des habits de peau. Du sang a coulé, des sacrifices ont été accomplis et avec des habits de peau, ils ont été recouverts, leur honte a été couverte et ce fut le début de l'histoire extraordinaire de la merveilleuse rédemption dans ce monde ici-bas. Dieu est un expert en matière de rêve et puis Dieu a rêvé de vous créer. Dieu a rêvé de vous créer. En effet, dans le psaume 139, je vous invite à ouvrir la Bible au verset 13. Vous allez voir que Dieu a rêvé de vous créer un jour. Je ne sais pas si vous vous aimez bien. Peut-être que vous vous aimez trop. Mais j'aimerais que vous aimiez normalement, conformément à la parole. Que vous aimiez Dieu d'abord pour ce qu'il a fait en vous créant. Que vous puissiez rendre gloire à Dieu de vous avoir créé comme vous êtes. Vous auriez aimé ressembler, je suis sûr, à un acteur de cinéma américain, comme Popeye. Non, peut-être pas. Bruce Willis, certainement. Hein. Mais vous avez cet aspect, vous avez des oreilles un peu trop grandes, peut-être un nez un peu trop épaté, vous aimeriez ressembler peut-être à Mariah Carey ou je ne sais pas, à une star du show business, mais j'aimerais vous dire que Dieu a pris soin de vous créer tel que vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes parce que Dieu vous a voulu ainsi. C'est pourquoi vous êtes important, Dieu a rêvé un jour de vous créer. Au verset 13, psaume 139, voilà ce que dit le psalmiste. C'est toi qui a formé mes reins. Ah, Dieu a formé nos reins. Un jour, j'ai découvert qu'il avait formé le mien bizarrement, d'ailleurs. Parce que pendant 4 mois, on a dit que j'allais mourir. Parce que j'avais une grosseur dans le rein. Une hypertrophie de la colonne de Bertin. Alors, scanner, etc. Et puis, le temps d'avoir le rendez-vous à l'IRM, il y en avait pour plusieurs mois. Et pendant plusieurs mois, le scanner vous dit que vous allez mourir. Alors, tous les matins, dans votre bureau, vous pensez à la mort. Vous pensez... Eh oui, il a formé mes reins aussi. Hein. Et puis l'IRM a tranché. Et le spécialiste me dit, mais vous êtes né comme ça, il y a des gens qui ont un gros nez. Je voulais dire quoi par là? Il me dit, mais vous avez une grosseur sur le rein, c'est une hypertrophie de la colonne de Bertin. Il me dit, il y a certainement quelqu'un, quelque part, qui a voulu que vous existiez comme ça. Voilà. Il a formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dis-le à ton voisin, je suis une créature merveilleuse. Non, mais dis-lui dans les yeux. Fais-lui plaisir. Dis-lui maintenant, tu ressembles à l'acteur de cinéma dont le pasteur a parlé il y a quelques instants. Alléluia, ça vous encourage, hein? Ça vous encourage. Mangez des épinards ce soir. Et le psalmiste continue en disant, tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Quand je pense qu'il y a des chrétiens qui ont peur de mourir, mais vous inquiétez pas, ça viendra. Le plus tard sera le mieux. Mais pourquoi tu t'inquiètes de mourir puisque c'est Dieu qui a fixé le jour? Et tu vas te lever un matin, j'ai un cancer, je vais mourir. Mais si Dieu a décidé que tu ne meurs pas, tu ne mourras pas. Tu peux faire 10 000 cancers, tu ne mourras pas, je te le dis. Et puis tu peux être en excellente santé, tout va bien, tu sors, tu as fait l'électrocardiogramme, électrocéphalogramme, le médecin te serre la poigne, puis il te dit, c'est bien monsieur, continuez, tout va bien pour vous. Tu sors de chez le médecin, hop, boum, par terre, t'es mort. Eh, c'est comme ça. Parce que Dieu a dit, c'est l'heure. C'est l'heure. Il faut maintenant rentrer dans la patrie céleste. Tu as fini ta mission, tu as rempli ton mandat maintenant. Tu pars dans la gloire. Tous tes jours sont inscrits. Tous tes jours sont inscrits. C'est pourquoi prends cette parole et puis sois délivré de la peur de mourir. Sois délivré de l'angoisse, de la maladie. Réfugie-toi dans le Seigneur. Rêve avec Dieu. Dieu a rêvé de te créer et Dieu a révélé. Dieu a rêvé de te révéler son plan aussi. La Bible dit que nous avons été créés par Dieu, mais il y a un passage révolutionnaire dans la parole de Dieu qui dit « Nous avons été, parce que nous croyons en Jésus maintenant, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que quoi ? Afin que nous les pratiquions. » Waouh ! N'est-ce pas extraordinaire cela ? Nous avons été créés maintenant, nous qui croyons en Jésus, nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu soit béni. Dieu a rêvé de nous révéler son plan au travers de Jésus. Et il y a eu ce jour dans notre vie où Dieu s'est révélé. Il est venu sur notre chemin pour nous révéler le plan du salut et pour nous révéler qu'il avait un plan pour notre vie et ainsi pour faire naître dans nos cœurs le rêve de servir le Seigneur et de poursuivre le Seigneur dans cette intimité avec lui. Mark Twain, un écrivain, a déclaré « Les deux jours les plus importants de votre vie sont les suivants. Le jour où vous êtes né. » Ah, ma mère était contente ce jour-là. Elle m'a dit « C'était comme une lettre à la poste. » C'est fini, il est là. « Bonjour, j'étais né. » Hallelujah. Et puis, le deuxième jour, Mark Twain nous dit, le deuxième, c'est celui où vous avez découvert pourquoi vous étiez né. Et c'est important. Jérémie 29, 11, dans la parole de Dieu, il est dit, et Dieu le dit, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. » Non pas les projets de malheur, mais les projets de paix, d'espérance. Hallelujah. Dieu a prévu pour nous d'avance des projets d'espérance. Alors, poursuis ton rêve. Point suivant, rêve avec Dieu. Maintenant, poursuis ton rêve en poursuivant Dieu. Parce que nous voudrions vivre plein de choses avec Dieu. Nous portons même des rêves dans notre cœur. Mais le danger, le risque en tant que chrétien, c'est de poursuivre notre rêve et placer notre rêve avant Dieu. Dieu m'a donné des visions, mais je ne sers pas la vision. Je sers le Dieu qui m'a donné des visions. C'est important que dans notre marche chrétienne, il n'y ait pas de confusion, mais que nous apprenions à poursuivre Dieu avant de poursuivre notre rêve. Dieu doit être placé au centre de ta vie chrétienne. Si tu veux voir tes rêves se réaliser, il y a dans le cœur du juste des chemins tout tracés. Si tu veux voir ces rêves se réaliser, il est important que tu cherches d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors comment placer Dieu au centre de notre vie ? Centre ta vie sur Jésus-Christ. Que Jésus soit le centre, il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Tout a été créé en Jésus, par Jésus, pour Jésus. Il doit devenir le principe même de ta vie chrétienne. Le principe même de la création, c'est Jésus, c'est ce que nous dit la Bible. À plus forte raison doit-il être le principe même de notre vie spirituelle, de notre vie sur la terre. Ensuite, cultive ta vie avec le Saint-Esprit, ta relation avec le Saint-Esprit. La Bible dit, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que nous avons été créés par Dieu, nous sommes donc dotés de la capacité de rêver. Ayant été sauvés par Jésus-Christ, nous sommes capables de rêver les rêves de Dieu. Mais si nous marchons dans la chair, nous risquons de rêver nos propres rêves, de poursuivre des idées que nous allons interpréter comme étant les rêves de Dieu, mais nous allons connaître l'échec, le fiasco, parce que nous ne marchons pas par l'Esprit. Les choses ne se font pas automatiquement. Ce n'est pas parce que Dieu a parlé à quelqu'un que les choses vont automatiquement s'accomplir. Celui qui a reçu le rêve de Dieu a de grandes responsabilités dans sa relation avec Dieu. Sinon, cela voudrait dire que les choses sont automatiquement écrites et qu'elles devront de toute manière, que nous soyons spirituels ou pas, se réaliser. Mais ça n'est pas possible. Nous avons donc une responsabilité de marcher par l'Esprit, de vivre une vie remplie de l'Esprit, de crucifier notre chair, afin de ne pas accomplir ses désirs. Et puis ensuite, il nous faut rechercher la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que je vais faire ces choses ? Ce rêve que j'ai dans mon cœur, ce rêve que je voudrais voir se réaliser, dans quel but est-ce que je désire le réaliser ? Pour que mon nom soit connu ? Pour que ma tête soit sur une affiche ? Pour que tout le monde me célèbre et m'élève et m'honore et me glorifie ? Non, je poursuis un rêve parce que mon seul désir, c'est de servir à la gloire de Dieu. Alors cultive ta relation avec Dieu. Cultive ta relation avec Dieu. Dans le psaume 37, verset 4, il est dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. » Amen. Dans Proverbe 4, verset 23, « Veille sur ton âme plus que sur toute autre chose, car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. » Veille sur ton cœur. Prends le temps avec Dieu. Prends le temps. Tu dis « Mais avec mes affaires, avec mon business, avec la vie d'aujourd'hui, je n'ai pas le temps. » Parce que tu penses que Moïse avait le temps. Tu penses qu'Abraham avait le temps. Ah oui, il avait tout son temps. Parce que, vous savez, il faut que je vous dise, du temps d'Abraham, par jour, il y avait 48 heures. On pense toujours que les gens qui ont fait des grandes choses pour Dieu, que des gens comme Billy Graham, comme William Booth, ce sont des gens qui avaient des journées différentes des nôtres. On pense qu'à leur époque, les journées étaient plus longues, qu'ils avaient 50 heures par jour. Donc, ils étaient capables de faire des grands travaux pour Dieu. Je dois vous dire la réalité, la vérité. Ils avaient aussi 24 heures par jour. Et nous avons, comme eux, les mêmes 24 heures. Mais comment les exploitons-nous ? De quelle manière ? Quelles sont nos priorités ? Nous avons reçu un projet, nous avons reçu un rêve. Cultivons notre relation avec Dieu. Écrivons le projet. Écris-le, le projet. Dans Habakkouk 2:2, il est écrit que tu reçois la prophétie, tu dois l'écrire, tu dois la rédiger. Il faut coucher les choses sur le papier. Quand tu reçois une vision, quand tu reçois un projet de Dieu, quand j'ai reçu cette vision des camions podium, j'étais dans un avion à 10 000 mètres d'altitude. Dieu me parle dans cet avion, il me montre des structures mobiles qui vont sillonner l'Europe. La première chose que j'ai faite, j'ai pris la serviette d'Air France. On pouvait lire tout le menu dessus. Hein. Mais j'ai commencé à dessiner la vision que j'avais reçue dans l'esprit. Et je suis rentré chez moi avec le schéma d'une structure mobile qui allait servir à la gloire de Dieu. Il faut coucher la vision sur le papier, c'est important de l'écrire. Il faut qu'elle soit non seulement audible, mais qu'elle soit lisible, qu'elle soit visible dans ton cœur, que tu saches quel est le projet que tu défends, quel est le rêve que tu poursuis, qu'est-ce que tu veux véritablement faire, que tu puisses y travailler. Travaille-le, dis-le, pense-le, développe-le. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu des rêves de Dieu, mais qui ne font rien. Ils attendent que les choses se passent toutes seules, que les rêves se réalisent tout seuls. Mais nous avons notre part sur la terre, nous devons y travailler. Tu rêves d'une grande chorale, tu rêves d'un grand ministère dans la louange, un grand ministère dans la musique. Peut-être que tu rêves d'une grande œuvre sociale. Tu rêves peut-être même de partir comme missionnaire. Mais tu dois travailler à cela. Tu dois retrousser les manches. Tu dois te mettre au travail. Et tu dois servir Dieu, non pas le rêve, mais servir Dieu. Tu rêves d'être un grand chirurgien, et je le disais aux jeunes vendredi soir, tu rêves peut-être d'être un grand chirurgien, mais quel chirurgien ? Un chirurgien chrétien ou un chrétien chirurgien ? Tu rêves d'être un avocat chrétien ou un chrétien avant tout qui fait fonction d'avocat ? C'est important que ta relation avec Dieu précède le rêve que tu as dans ton cœur. Je ne vais pas vous mentir, quand j'ai passé mon bac en France, je n'étais pas un champion dans les mathématiques. Depuis, j'ai un peu progressé. J'ai eu 0,75, non pas sur 1, mais sur 20. Alors, quand on a 0,75 en maths au bac, je ne pense pas qu'il faut faire le malin en disant « Moi, je veux devenir Einstein ». Les gens vont vous regarder, vont dire « Non, mon gars, ce n'est pas sérieux. Je pense que le soleil a dû te chauffer un peu la tête. » Il faut être un moment réaliste. Il faut être un moment réaliste. Et regardez en soi-même quels sont nos dons, quels sont nos talents, quelles sont nos compétences. Cecilia Bartoli est une cantatrice connue internationalement. Mais il faut savoir qu'au début, son prof de musique disait d'elle, jamais elle ne saura chanter. Mais sa mère, quand elle entendait sa fille chanter, elle voyait déjà une diva, une cantatrice. Quand c'est comme ça, soit tu arrêtes ton rêve parce que le prof de musique a dit que tu n'es pas capable de chanter. Mais je pense qu'à un moment, il faut changer de prof de musique. Non ? Quand les gens sont en train de vous écouter comme ça et que le prof de musique dit « elle chante vraiment mal hein, », changez de prof de musique. Il y a un moment où il faut être réaliste. Soit vous avez vraiment reçu ou vous n'avez pas reçu. Mais si vous avez reçu, développez les talents que vous avez. Et ne laissez personne le faire à votre place. En 1930, deux frères, Dick et Maurice, déménagent en Californie. Leur but, réussir. En 1937, ils ouvrent leur premier restaurant, qu'ils appellent Drive-In, à Pasadena. En 1940, ils ouvrent un autre restaurant à San Bernardino. C'est le grand succès. Recette annuelle à cette époque, en 1954, 200 000 dollars. Et puis, à ce moment-là, un dénommé Ray Kroc. Son nom déjà veut dire ce qu'il voulait, Kroc. Il voulait les croquer. Et cet homme d'affaires visite les deux frères, leur propose de franchiser leur restaurant. Les deux hommes refusent, mais ils acceptent de vendre leurs droits pour 2,7 millions de dollars en 1961. C'est alors que M. Kroc les croque et implante une chaîne de restaurants qui s'appelle McDonald's. 4 ans plus tard, 500 restaurants, aujourd'hui plus de 21 000 dans 100 pays. Ces deux hommes, Dick et Maurice, n'ont pas eu la vision de poursuivre leur rêve. Quelqu'un l'a pris et l'a accompli à leur place. C'est important d'aller jusqu'au bout des choses avec Dieu, de développer ce que Dieu nous a donné. Mais je lis aussi le témoignage d'un homme qui, à l'âge de 65 ans, un dénommé Sanders, touche une maigre retraite. Ça ne lui suffit pas. Pour joindre les deux bouts, il a l'idée de commercialiser sa recette dont raffolent tous ses amis. Pendant 2 ans, il sillonne l'Amérique dans sa voiture. Il dort dans sa voiture parce qu'il n'a pas les moyens de se payer une chambre d'hôtel. Il va essuyer, écoutez-moi bien, il va essuyer 1000 refus. Et tout précisément, 1009 refus. Il les a comptés. 1009 refus. Il y a de l'espoir. Hein. Mais le 1010e, ça marche. Et c'est ainsi qu'est né le célèbre Kentucky Fried Chicken, le poulet frit Kentucky. Vous savez que Walt Disney, avant de devenir celui que nous connaissons, a essuyé lui aussi plus de 300 refus. Plus de 300 refus. Vous avez un rêve. Si vous êtes sûr que ce rêve vient de Dieu et non pas de votre chair, vous avez dans votre cœur des chemins tout tracés. Vous savez que c'est Dieu qui vous l'a donné, vous en avez la certitude, l'intime conviction. Alors, poursuivez-le. Ne vous découragez pas, parce qu'un jour, il va se réaliser. Ces gens y ont cru et ils l'ont accompli. Maintenant, quelqu'un dira, « Pasteur, votre message est très intéressant, mais il ne me concerne pas. Je n'ai pas de rêve. Je n'ai pas vraiment de rêve. Je n'ai pas reçu une vision spéciale de Dieu. Je n'ai pas un rêve qui brûle dans mon cœur. Mais j'ai un autre rêve. Je veux considérer le rêve de Dieu. » Et là, nous sommes tous appelés ici, quelles que soient nos visions, quels que soient les rêves que nous portons dans notre cœur, nous sommes tous appelés à poursuivre le rêve que Dieu porte dans le sien. Amen. Waouh ! Quelqu'un va dire, ah bon ? Dieu porterait-il un rêve dans son cœur ? Mais quel est le rêve de Dieu ? Dieu rêve que tous les hommes soient sauvés. Amen. Dieu rêve que l'Église soit l'Église, l'appui, la colonne de la vérité. Dieu rêve que l'Église soit véritablement l'Église, parce que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Voilà le rêve de Jésus, « Je bâtirai mon Église ». Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ah, les portes peuvent s'ouvrir, les démons peuvent rugir, ils peuvent vouloir attaquer l'Église, mais Jésus a dit « que toutes ces forces, ces puissances infernales n'auront aucun pouvoir contre mon Église parce que c'est moi qui la bâtirai et je fais de tous mes ennemis mon marchepied. Alléluia ! Dieu soit béni. Et le rêve de Jésus, c'est de bâtir l'Église sur toute la surface de la planète. Une Église qui soit l'Église 24 heures sur 24. Donc si vous n'avez pas reçu une vision spéciale ou un projet spécial ou un rêve spécial, vous pouvez de toute façon servir le plus beau des rêves, le rêve de Dieu. Ce rêve qui consiste à bâtir l'Église sur toute la terre, parmi toutes les nations, parce que Dieu désire qu'il y ait dans le ciel des hommes de tout peuple et de toute langue. Dans l'Apocalypse, il est question de cette célébration qui aura lieu dans le ciel, où des hommes issus de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes langues vont célébrer le Seigneur pour l'éternité. Alléluia. Et lorsque je vis l'Église, lorsque je réalise que je suis l'Église, alors je poursuis le rêve de Dieu. Je sers le rêve de Dieu, le rêve qui brûle dans le cœur de Dieu. Je lisais ce témoignage qui répond au rêve de Dieu. Le rêve d'un jeune homme qui un jour marche dans les rues de Los Angeles. Et alors qu'il traverse les quartiers les plus chauds de la ville, là où il n'y a pratiquement plus d'église, là où il n'y a pratiquement plus d'assemblée parce qu'il y a les gangs, il y a tous les trafics, ce jeune homme, eh bien tout à coup est visité par le Saint-Esprit. Et Dieu lui donne un rêve. Et Dieu lui dit, tu vas implanter une église à Los Angeles. Et la première réaction qu'il a, c'est de se dire, non, ça peut pas être une pensée de Dieu. Moi, le jeune homme que je suis, je vais implanter une église à Los Angeles. Et Dieu lui dit, non seulement tu vas implanter une église, mais cette église sera une église qui va fonctionner 24 heures sur 24. Waouh ! Ça, c'est un rêve de Dieu. Pourquoi ? Parce que ce rêve était bien plus grand que Matthew Barnett. Un rêve de Dieu n'est jamais à notre mesure. Il est toujours plus grand que nous. Parce que pour le réaliser, nous aurons besoin de Dieu, tout simplement. C'est ainsi que Matthew Barnett en a parlé à son père Tommy Barnett, le pasteur de l'Assemblée de Dieu de Phoenix, et qu'ils se sont mis au travail pour commencer à prêcher l'Évangile dans ce quartier chaud de Los Angeles. Et en quelques années, l'œuvre de Dieu s'est accomplie. L'Église est passée de 30 membres en 1994. Dans les années 2000, maintenant, elle compte plus de 35 000 personnes par semaine. 35 000 personnes par semaine. C'est une église qui n'est jamais fermée. C'est une église qui a plus de 40 services par semaine. 40 services. C'est une église, on appelle maintenant cette église le Dream Center, le centre de rêve. L'église qui ne dort jamais. Vous ne rêvez pas que votre assemblée fonctionne 7 jours sur 7, ici comme cela. Vous ne rêvez pas de cela. Vous avez le droit de le rêver. Vous avez le droit de le rêver. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'église, elle est l'église 24 heures sur 24. Tout simplement. C'est tellement évident, c'est tellement logique, l'Église est l'Église. Nous, nous disons, nous allons à l'Église. Quand ? De telle heure à telle heure. Mais le Seigneur dit, attendez, vous n'avez pas compris, vous êtes l'Église. Vous êtes l'Église, 24 heures sur 24. Vous allez dans une réunion pour me célébrer, mais tous les jours, toute l'année, quelles que soient les saisons, vous êtes mon peuple, vous êtes mon Église. Et le Seigneur rêve que dans cet endroit, comme il le conduira, eh bien, l'Église se développe d'une manière exponentielle et que dans quelques années, des milliers remplissent ce lieu. Et que vous soyez contraints, je l'ai vécu chez un ami en Argentine, le pasteur Guillermo Prein. Lorsque je suis entré dans son assemblée, j'ai pu prêcher dans un culte où il y avait plus de 1000 personnes. Et il me dit, ici dans mon assemblée, j'ai 37 cultes par semaine. 37 cultes. Et les gens n'ont pas le droit d'assister à deux cultes. Verboten, interdit. Si tu es un drogué du culte, tu as des gens de la sécurité qui te mettent dehors. Non, non, tu as eu ton culte, on n'aura pas deux, c'est terminé ici. Il y a des bodyguards qui sont là en train de surveiller tout pour que les gens ne soient pas des consommateurs de culte. Tu as le droit qu'un dans la semaine, pas plus. Vous imaginez, plus de 30 personnes à plein temps qui prêchent. Alléluia. J'aimerais qu'on termine par la prière. Parce qu'on rêve. On veut rêver le rêve de Dieu. Alléluia. On se lève ensemble, les musiciens peuvent m'accompagner. Et puis on va s'approcher du Seigneur ensemble. Et je vais lancer un appel parce qu'il y a dans cette assemblée des gens qui portent des rêves que Dieu leur a donnés. Ces rêves brûlent en vous parce qu'ils ne viennent pas de vous. C'est Dieu qui les a déposés. Et en même temps, ces rêves doivent servir le grand rêve, celui de Jésus. Bâtir l'Église. Bâtir l'Église. Non pas vous bâtir votre propre royaume, non pas vous bâtir votre propre gloire, mais bâtir le royaume de Dieu. Alléluia. Dieu soit béni. Et puis on veut rêver tous ensemble, avec le pasteur Walter, avec ses collaborateurs, avec le conseil d'administration, avec les anciens. On veut rêver avec tous les responsables des services de cette assemblée. On veut rêver avec le chrétien qui n'a peut-être pas de service, mais qui, dans le secret de sa chambre, pleure et prie pour que cette église grandisse et que des multitudes soient sauvées et que le rêve de Jésus, le rêve du Père s'accomplisse. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. J'aimerais vous inviter, vous qui rêvez les rêves de Dieu, vous qui rêvez un rêve de Dieu à venir sur le devant, je vais prier avec vous et avec l'équipe pastorale, nous allons prier pour vous et demander que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous remplisse, qu'elle vous anime pour que nous servions tous à la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Dieu soit béni.